Vous écoutez RTL.
Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel. On va passer une heure ensemble avec le récit inédit d'une vie, la trajectoire d'une célébrité, un homme ou une femme qui se retrouve dans la lumière, goûte au succès sans en mesurer toujours les pièges, les dangers qui vont peut-être l'emporter. L'actrice dont nous allons suivre les pas était déjà célèbre à sa naissance et à l'âge de 20 ans avait déjà conquis le plus haut sommet de sa carrière, devenue en un seul film un personnage éternel, une icône du cinéma. La gloire était au rendez-vous, mais elle se transforma en fardeau trop lourd à porter. L'histoire secrète de la princesse malheureuse de Star Wars, Confidentiel Carrie Fisher, c'est tout de suite sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard. Confidentiel.
Carrie Fisher n'a jamais su qui elle était vraiment. La fille d'une actrice célèbre ou la jolie princesse de la Guerre des Étoiles. Elle chercha obstinément la réponse jusque dans les paradis les plus toxiques, sans jamais la trouver. Carrie Frances Fisher est née le 21 octobre 1956 sur la colline des milliardaires, Beverly Hills. Fille de l'un des couples les plus en vue du moment, sa mère, Debbie Reynolds, est la star du film Chantons sous la pluie avec Gene Kelly. Son père est un crooner à succès, l'infatigable playboy Eddie Fisher.
If I ever needed you,
Carrie Fisher ironisera sur sa naissance où seuls ses parents vedettes attiraient l'attention d'infirmières demandant des autographes. Je n'existais pas, j'allais devoir passer ma vie à essayer de prouver le contraire, dira-t-elle. Carrie Fisher et son petit frère Todd ont une vie de prince. La maison est si grande et si luxueuse que Carrie la surnomme l'ambassade. On peut faire du vélo dans les couloirs. Pas moins de 6 réfrigérateurs, tous de couleur rose, répartis dans les 15 pièces de la demeure. Rien n'est trop beau et tous les caprices sont exaucés. Lorsque Carrie demande un grand arbre dans le jardin, sa mère fait aussitôt planter un sapin géant de 25 mètres de haut. Pourtant, malgré les apparences, rien ne va plus dans la maison. Carrie Fisher, comme ce sera un jour le cas dans La Guerre des Étoiles, a très vite pour père un étranger qui lui échappe. 2 ans après sa naissance, Eddie Fisher quitte la maison. Le scandale est retentissant, sa photo dans tous les journaux. Le crooner se remarie avec l'actrice Elizabeth Taylor, fraîchement veuve d'un troisième époux. Commence alors pour Carrie Fisher une existence quasi orpheline. Un père parti, une mère accaparée par les tournages, le plus souvent entourée par une meute de fans. Je détestais ça, j'avais le sentiment d'être différente alors que je voulais ressembler à tout le monde, dira Carrie Fisher.
RTL. Confidentiel.
À 10 ans, Carrie Fisher est une petite fille perdue qui ne voit pas beaucoup sa mère et rêve de retrouver son père. Elle cherche à distance à l'impressionner, lui raconte par le menu tous les livres, auteurs classiques et même philosophes grecs, qu'elle dévore sans parfois comprendre ce qui est écrit. « Les livres ont été ma première drogue », avouera-t-elle. Mais papa Eddie Fisher n'envoie ni encouragement, ni félicitations, ni petits mots gentils. Quand elle a la chance de le voir, c'est le plus souvent dans des émissions télé, rarement dans la vraie vie. Carrie Fisher, future princesse Leia de Star Wars, est une adolescente sujette aux sautes d'humeur, exaltée puis subitement morose, des hauts et des bas qui l'épuisent. À 15 ans, elle suit une thérapie. Quand le médecin psychiatre lui demande ce qui ne va pas, elle répond « Je veux juste m'arrêter de pleurer ». Le diagnostic ne sera établi que bien des années plus tard. Un trouble bipolaire qui la poursuivra toute sa vie. Une névrose qui ne lui laissera aucun répit. L'actrice ne cachera jamais sa détresse, s'accoutumant tant bien que mal à voyager entre l'ombre et la lumière. Carrie Fisher n'aime pas Hollywood, qui l'a privée de sa famille et lui a volé son enfance. Elle ne sera d'ailleurs jamais à l'aise dans cet univers dont elle est captive depuis la naissance. À 6 ans, un magazine la photographie assise sur un tabouret dans les coulisses d'un théâtre, en train d'écouter chanter maman. À 13 ans, elle monte pour la première fois sur scène avec sa mère à Las Vegas, puis à Reno. Carrie chante très bien et Debbie Reynolds a décidé de l'entraîner dans son spectacle musical. L'adolescente en gardera un souvenir épouvanté, pétrifié par le trac, jurant de ne jamais faire carrière dans le show business. Mais Carrie Fisher ne tiendra pas sa promesse. Impossible pour elle de quitter le sillage de cette mère célèbre qui l'attire comme un aimant. Carrie apparaît ainsi à la télé dans une émission consacrée à Debbie Reynolds. À 15 ans, elle fait ses débuts à Broadway dans Irène, une comédie musicale. Sa mère tient la vedette du spectacle. Elle n'a pas hésité une seconde à demander à sa fille de quitter l'école, la Beverly High School, pour qu'elle la rejoigne sur scène. Carrie Fisher dira un jour, avec elle le message était clair, l'impossible est toujours possible, ma mère n'a jamais abandonné, ses maris l'ont quittée, elle a perdu tout son argent, mais elle a toujours refait surface. Carrie Fisher se méfie peut-être d'Hollywood, mais ses lumières dangereuses la fascinent. Une fois que vous avez mis le pied dans ce système, c'est très attrayant, on a du mal à s'en détourner, dira-t-elle. À 17 ans, Carrie fait sa première et unique tentative de couper les ponts avec Beverly Hills, l'univers du showbiz et surtout avec sa mère. Je l'ai regardée et j'ai vu ô combien elle était belle. Je savais que je ne pourrais jamais égaler cette beauté. J'ai donc décidé d'être quelqu'un d'autre, une fille marrante et gentille. Elle part loin de l'Amérique, en Angleterre, et s'inscrit à l'école d'art dramatique de Londres. Le séjour londonien est prévu pour durer 18 mois, mais il est vite interrompu par un premier casting. Le film s'appelle Shampoo, une comédie dans laquelle Carrie Fisher tient un petit rôle. Une adolescente qui papillonne autour d'un patron de salon de coiffure bourreau des cœurs, Warren Beatty. L'acteur poursuivra son numéro de séduction en dehors du plateau. Carrie Fisher racontera qu'à l'époque, Warren Beatty, 20 ans de plus qu'elle, lui avait demandé à 4 reprises de coucher avec lui pour qu'elle découvre l'amour. Elle refusera 4 fois et de retour à l'école d'art dramatique, se jettera dans les bras d'un étudiant fou amoureux d'elle. Le futur acteur britannique Simon Templeman sera donc son tout premier boyfriend, liaison de jeunesse sans véritable lendemain, balayée par la tempête qui allait suivre, le sacre de Carrie Fisher dans la tunique immaculée d'une princesse interstellaire.
Passionné de faits divers.
N'attendez pas. Abonnez-vous dès maintenant sur RTL.fr au podcast Les Voix du Crime pour plonger au cœur des plus grandes et effrayantes affaires criminelles. RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Carrie Fisher, pas encore actrice, pas encore princesse de la guerre des étoiles, mais déjà habituée à la célébrité à travers ses parents et la vie à Hollywood. On en parle dans ce confidentiel avec notre invité, François Forestier. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour, bonjour.
François Forestier, on vous connaît bien dans Confidentiel. Merci de nous faire partager à nouveau votre expertise aujourd'hui. Vous êtes journaliste spécialiste du cinéma à l'Obs. Vous connaissez parfaitement la mécanique de Hollywood. Et on l'a peut-être oublié, mais à la naissance de Carrie Fisher, sa mère, Debbie Reynolds, est une immense star.
Écoutez, oui, c'est une star immense, on ne peut pas dire encore, parce qu'elle est devenue une immense star un peu plus tard à Las Vegas. Mais au cinéma, déjà, c'est quelqu'un de connu, en tout cas, qui a un nom, qui est capable de porter un film. Elle a surtout eu Chantons sous la pluie avec Gene Kelly, et c'est là qu'elle est devenue connue. Je pense que c'est le haut sommet de sa carrière.
C'est effectivement le film qui la sacre et qui l'a fait connaître. Un mot, François Forestier, sur ce couple qu'elle forme avec Eddie Fisher, qui est le père et qui va être l'homme invisible dans la vie de Carrie Fisher.
C'était une immense star, disons, du niveau de Frank Sinatra ou Dean Martin à l'époque. Un homme assez beau, dragueur absolument terrible et qui a eu des aventures sentimentales dans tous les sens. Si bien que la petite Carrie Fisher, dès sa naissance, a été privée à la fois de père, puisque celui-ci était tout le temps en tournée quelque part aux États-Unis, et de sa mère, souvent, qui, elle, était en train de tourner des films. Malheureusement, ce n'est pas souvent des films aussi intéressants que Chantons sous la pluie. Vous savez, elle a tourné énormément de films, de deuxième rayon, dont les titres sont « Comment dénicher un mari »,« Mon séducteur de père »,« La farfelue de l'Arizona », tout ça. Qui étaient des films qui avaient du succès, d'ailleurs, mais qui sont pas restés dans l'histoire du cinéma. Donc la petite Carrie Fisher a grandi dans l'ombre de la célébrité en voyant les dégâts et les manques que ça provoquait dans une vie de famille.
Alors elle va partir en Angleterre pour dans une école de théâtre. Il y a ensuite très vite un tout premier film, Shampoo. Est-ce que vous connaissez ce film ?
Shampoo, oui, bien sûr. C'est un film qui a eu un énorme succès, qui était le fruit des réflexions de Warren Beatty, qui joue le rôle principal. C'est l'histoire d'un coiffeur qui monte dans la hiérarchie des coiffeurs à Hollywood. C'est un film assez sympathique. Il y avait Julie Christie, qui était la fiancée de Warren Beatty. Il y a Lee Grant, qui a eu d'ailleurs, je crois, un Oscar pour. C'était ces deux femmes-là qui étaient les stars du film. Et la petite Carrie Fisher a un rôle tout à fait secondaire là-dedans. Elle avait 17 ans, Carrie Fisher, donc elle a un tout petit rôle. Et franchement, quand on a vu le film, on ne se souvient pas d'elle.
RTL Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Carrie Fisher a 19 ans et n'a aucune idée de quoi son avenir sera fait. Comédienne, pourquoi pas ? Son apparition dans un premier film, la comédie Shampoo, a été remarquée. Mais la débutante n'est pas dupe. Si les journaux se sont jetés sur elle, c'est tout simplement parce qu'elle est la fille d'une actrice célèbre. Cette dernière a beau déclarer qu'il est désormais important que Carrie soit davantage que la fille de Debbie Reynolds, rien n'y fait. Carrie Fisher n'existe toujours qu'à travers sa mère. Le grand magazine Time pointe une seule différence. Carrie a un sourire bien plus malicieux et mordant que Debbie. Pour les vacances de Noël 75, Carrie Fisher est de retour dans la maison de Beverly Hills. Elle profite des fêtes de fin d'année pour participer à deux castings. Déjà trop vieille pour jouer les petites pestes ou les adolescentes délurées, pas assez pour être une mère de famille, dira-t-elle. Le premier réalisateur, Brian De Palma, cherche une comédienne de 18 à 22 ans pour incarner une jeune fille au don de télépathie qui porte dans le scénario, c'est un hasard, le même prénom qu'elle. Carrie, film d'horreur, battra des records d'entrée, mais Carrie Fisher ne sera pas retenue pour le rôle. Dans le même immeuble, la même semaine, Carrie Fisher passe un autre casting. Cette fois, elle fait face à George Lucas, qui prépare un film de science-fiction. À l'issue de l'audition, Lucas fait la moue. La jeune actrice est persuadée d'avoir échoué. « J'ai serré les mains de tout le monde, puis je me suis dirigée vers la sortie, avec le sentiment que j'allais monter sur l'échafaud », écrira-t-elle. Une semaine plus tard, pourtant, le réalisateur la rappelle. La voilà retenue pour jouer dans un film dont personne ne se doute qu'il va entrer dans la légende et faire de Carrie Fisher une icône sous les traits d'une princesse immortelle.
Dark Vador, Cette félonie porte bien votre marque. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique.
Rêve de faux semblants, Altesse. Cette fois, vous n'êtes pas en mission de bienfaisance. Nous avons capté des messages émanant de plusieurs satellites rebelles. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis.
Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate, en mission à Alderaan.
Vous avez parti lié avec les rebelles. Vous avez trahi. Qu'on l'emmène !
Pour devenir la princesse Leia Organa de Star Wars, la guerre des étoiles, Carrie Fisher a dû perdre 4,5 kg. Une cure d'amaigrissement dans un institut spécialisé du Texas, recommandé par sa mère. Le premier jour du tournage, à Londres, le 22 mars 1976, quand la production lui présente sur photo une série de coiffures, elle choisit celle qui l'amuse le plus et qu'elle baptise les écouteurs. Sans savoir, bien sûr, que ces deux nattes enroulées sur ses oreilles vont être à jamais le signe de reconnaissance de la princesse Leia, le double de Carrie Fisher. J'adore Leia, la manière dont elle traite les gens, elle dit la vérité, elle obtient ce qu'elle veut. Je n'ai aucun problème avec la princesse Leia. Deux mois après le début du tournage, Carrie Fisher se retrouve dans les studios pour une fête d'anniversaire improvisée, les 32 ans de George Lucas. Ce soir-là, toute l'équipe du film est réunie. L'alcool coule à flot, Carrie Fisher d'ordinaire ne boit pas une goutte, elle est grisée par les verres successifs, se laisse raccompagner par l'un des acteurs vedettes du film, puis se retrouve dans son lit. Harrison Ford, qui tient le rôle de Han Solo dans Star Wars, à 14 ans de plus qu'elle, c'est déjà un acteur célèbre, marié et père de deux enfants. La première grande histoire d'amour de Carrie Fisher dure 4 mois. C'était Han Solo et Princesse Leia la semaine, Carrie et Harrison les week-ends, confiera bien des années plus tard l'actrice à un magazine. Des rendez-vous dans un discret pub londonien, des nuits dans un appartement anonyme où le couple fume de la marijuana. J'avais raconté n'importe quoi pour me donner de l'assurance. Harrison croyait que j'étais une fille très mûre, très expérimentée, mais c'était tout le contraire. Je n'avais eu qu'un seul boyfriend et je n'avais aucune confiance en moi. J'étais nerveuse et maladroite, avouera Carrie Fisher.
Jean-Alphonse Richard. Confidentiel Carrie Fisher sur RTL.
Pendant des décennies, la romance entre Carrie Fisher et Harrison Ford va rester secrète. Les ex-amants continueront à se croiser, à jouer ensemble, mais sans jamais évoquer leur romance. Pas un mot, pas une allusion. Carrie Fisher gardera longtemps pour elle cette blessure, avant de briser le silence à la fin de sa vie, révélant cette liaison que tout le monde ignorait, y compris la femme à qui elle disait pourtant tout, sa mère. L'actrice de Star Wars avouera alors que cette histoire avait été la plus belle de sa vie. Elle guettera une réaction, un signe, un mot de Harrison Ford, mais rien ne viendra. Carrie Fisher, habituée à garder les secrets, finira par regretter d'avoir dispersé celui-ci. 11 mois après sa sortie, le film rapporte déjà 164 millions de dollars et sacre Carrie Fisher. Impossible désormais de la voir sous d'autres traits que ceux de la princesse Leia. Pendant 4 mois, l'équipe fait la promotion du film à travers les États-Unis. Carrie Fisher n'a que 22 ans, mais apparaît comme une jeune femme forte qui ne connaît pas le doute. George Lucas confirme « Je voulais une dure à cuire, quelqu'un qui fasse peur aux méchants, c'est pour cela que j'ai choisi Carrie Fisher. » Carrie Fisher fait bonne figure devant les journalistes. Elle revendique son indépendance. Les féministes adorent cette princesse intelligente qui prêche la justice et l'équité. Et les producteurs se l'arrachent. Tout le monde est en train de tomber amoureux de cette beauté espiègle. Son boyfriend du moment est un apprenti acteur, Griffin Dunne, avec qui elle partage un petit appartement à New York. Pas de grande histoire d'amour, mais Griffin restera l'un de ses meilleurs amis. Désormais, Carrie Fisher ne doit plus rien à sa mère. Les journaux évoquent à peine cette filiation. Jusque-là, Carrie était la fille de Debbie Reynolds. Aujourd'hui, je suis la mère de la princesse Leia, s'amuse Debbie Reynolds en personne. Carrie Fisher s'est faite un nom. Elle est riche, célèbre. Personne alors ne devine la jeune femme vulnérable qui se cache derrière l'héroïne de Star Wars, sujette à des crises de larmes, à des terreurs incontrôlables qui vont l'entraîner dans des abîmes dont elle ne sortira pas.
Confidentiel
sur RTL.
Carrie Fisher, éternelle princesse Leia, cette silhouette sans laquelle Star Wars ne serait pas tout à fait Star Wars. Avec nous au téléphone de Confidentiel, François Forestier. François Forestier, quel est ce personnage, cette princesse que met en scène George Lucas?
C'est un personnage très important dans la saga de Star Wars, puisque c'est la princesse de la planète Alderaan, qui est sénatrice impériale, membre de l'Alliance secrète. On se perd un peu dans la chronologie de tous les films Star Wars maintenant. Et on sait que la princesse a été adoptée par le sénateur Bail et la reine Organa, la princesse aura un fils nommé Ben Solo, et elle meurt dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, Carrie Fisher a imposé une image d'elle-même, qui est cette coiffure avec, vous savez, ces espèces d'enroulés autour des oreilles. Elle a une espèce de bikini en métal. À l'époque, il y avait d'autres actrices qui étaient en piste pour ce rôle, qui étaient Amy Irving et Jodie Foster. Et ce que je pense que ce qui a favorisé son choix, c'est qu'elle a une espèce de fraîcheur, voire on peut penser une certaine naïveté. Plus tard, elle a dit qu'elle aurait préféré jouer le rôle de Han Solo, qui est tenu par Harrison Ford, mais enfin, ça c'est de l'ordre de la conjecture.
Est-ce que sans Carrie Fisher, La Guerre des Étoiles aurait connu le même succès?
Et c'est difficile à dire. Je ne pense pas que Carrie Fisher elle-même aurait eu le même succès. C'était pas une actrice géniale. Moi, je l'ai rencontrée. Hein, c'est pas elle. Elle a une espèce de fraîcheur et une, comme je disais, une grande naïveté, je pense aussi, qui colle très bien avec le rôle. C'est pour ça qu'elle est, elle est si bonne. Mais je ne suis pas sûr que si elle avait dû jouer, du Shakespeare, ou si elle avait dû être dans des tragédies épouvantables, je suis pas sûr qu'elle aurait tenu le coup. En tout cas, elle était très déséquilibrée. Elle a dit plus tard qu'elle souffrait de désordre, comme on dit aux États-Unis, bipolaire. Je sais pas si c'est vrai. C'est quelqu'un dont on sentait très bien qu'elle était en tension permanente. Elle parlait très vite. C'est comme quelqu'un qui aurait pris des amphétamines, vous voyez. Et on sentait qu'elle courait après la vie. Alors, elle a eu des moments de dépression grave. Elle a été internée. En tout cas, elle était très déséquilibré, et je pense que ça a dû jouer beaucoup dans la difficulté de sa carrière.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
En ce début des années 80, Carrie Fisher, la princesse Leia de La Guerre des Étoiles, est une actrice convoitée, reconnue par les fans et les paparazzi. Elle ne pensait pas que la célébrité la déforme à ce point, aggravant ses angoisses, cette bipolarité qu'elle traîne depuis l'enfance. Tout est bon alors pour se changer les idées et prendre la fuite. En premier lieu, la cocaïne, qui circule ouvertement dans toutes les soirées. Puis le LSD, dont Carrie Fisher va bientôt ne plus pouvoir se passer. « Je ne crois pas que j'étais suicidaire. Je crois que la drogue m'aidait à oublier le mal dont je souffrais. Avec elle, je pouvais chasser ce désordre intérieur. » Sur le plateau des Blues Brothers, Carrie Fisher fréquente l'une des deux stars du film, Dan Aykroyd. Ils partagent tous deux les mêmes addictions, 3 jours dans le Nevada, enfermés dans un chalet, à regarder des films de Noël sous l'emprise du LSD. L'actrice a beaucoup maigri, elle pèsera bientôt 40 kilos. Elle mange tellement peu qu'elle s'est étouffée à table. Alors qu'elle ne pouvait plus respirer et allait s'évanouir, Dan Aykroyd lui a sauvé la vie, puis 10 minutes plus tard l'a demandé en mariage. Les alliances étaient prêtes, les tests sanguins effectués. « J'aurais mieux fait de me marier avec lui », dira l'actrice. Carrie Fisher, 26 ans, a dit non à Dan Aykroyd car elle est tombée amoureuse d'une pop star. Paul Simon, devenu célèbre pour le duo qu'il forme avec Art Garfunkel, a rencontré Carrie en visitant le plateau où se tourne la suite de La Guerre des Étoiles. Le 16 août 1983, la princesse Leia se marie. La cérémonie a lieu dans l'appartement du musicien, un immense duplex qui domine Central Park à New York. Les parents divorcés de Carrie, Eddie Fisher, Debbie Reynolds sont là, tout comme une poignée d'amis, George Lucas et le chanteur Billy Joel, qui offre au couple un monumental jukebox. Le mariage entre Carrie Fisher et Paul Simon est peut-être le plus pop de l'année, mais c'est un feu de paille. Il dure 11 mois, une vie commune dès le départ impossible, ponctuée d'incessantes disputes, de portes qui claquent, de départs, de réconciliations et de tripes interdits. Le couple touche à presque toutes les substances, des infusions hallucinogènes avec une tribu indienne au fin fond de l'Amazonie, des champignons magiques en plein désert où le pullover de l'actrice prend feu. Il y aura aussi l'héroïne que Carrie Fisher dit avoir sniffée, et puis les cocktails d'antidépresseurs et d'antidouleurs. L'actrice peut ingurgiter jusqu'à 30 pilules par jour de Percocet, un puissant antalgique. Elle s'effondrera un jour sur un tournage, puis en 1985 fera une overdose de médicaments qui la plongera dans le coma. Carrie Fisher divorce de Paul Simon. Le couple ne va cesser pourtant de se retrouver et de se déchirer pendant 6 ou 7 années encore. L'actrice a alors la conviction qu'elle est incapable d'être heureuse. La vie à deux lui laisse un goût amer. « Je ne suis pas très bonne pour les relations humaines, je ne suis pas assez coopérative. Je n'avais pas pu donner à Paul la paix qu'il désirait. Je suis quelqu'un qui n'offre rien de paisible. » Avoue Carrie Fisher qui ajoute « Je ne sais pas pourquoi je me bagarre toujours, même quand cela n'est pas nécessaire. »
Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL.
Carrie Fisher traverse ainsi les années 80 avec ses névroses. Elle se résout à suivre de longues séances d'électrochocs dans une clinique pour soigner sa bipolarité contre laquelle les calmants ne peuvent plus rien. Elle révélera cette hospitalisation des années plus tard, affirmant sans convaincre que cette thérapie radicale lui avait été bénéfique. Pour le reste, Carrie Fisher alterne voyages, amours éphémères, comme cette liaison secrète avec un sénateur marié, et tournage. Les films se succèdent, mais c'est sa seule réapparition dans le troisième Star Wars, Le Retour du Jedi, que retient le public, condamnant la princesse Leia à ne jamais vieillir.
Ça semble dangereux.
Je me demande qui ils vont trouver pour ce truc de dingue.
Général Solo, votre groupe de combat est prêt ?
Ah, mon groupe est prêt, mais j'ai pas d'équipage pour piloter la navette. Je voulais pas parler en ton nom, mais ça va être très dur. En voilà
un ? Général, j'en ferai partie.
Je viens, moi aussi.
Carrie Fisher est lasse de sa vie d'actrice, mais pas encore écœurée par le cinéma. La mutation prendra des mois, mais elle est réussie. Carrie Fisher devient l'une des scénaristes les plus recherchées et parmi les mieux payées de Hollywood. Le meilleur côté du succès, c'est l'argent et les rencontres. Le pire côté, c'est aussi l'argent et les rencontres, résume-t-elle. En 1991, Carrie Fisher est en couple avec l'agent et producteur Brian Lourd. À 35 ans, elle met au monde son premier et unique enfant, une fille baptisée Billy. Elle l'élèvera seule. 2 ans après la naissance, Brian fait son outing et la quitte pour aller vivre avec un homme. Son addiction à la drogue, qu'on aurait pu croire alors apaisée, n'a pas cessé. Nouvelle admission dans une clinique psychiatrique. Elle passe 6 jours sans dormir, délire, aperçoit des paysages fantasmagoriques à travers la baie vitrée. Elle pense alors sombrer dans la folie, ne plus jamais revoir sa fille, mais refait surface. Carrie Fisher a beau être loin des caméras, elle n'est pas heureuse d'observer les rides qui se dessinent sur son visage. « Mon corps vieillit plus vite que ma tête », dit-elle. Elle ajoute « J'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'en traverserai peut-être d'autres, mais je ne serai pas vraiment contente de mourir un jour. » Malgré les années, elle court toujours après l'ombre de sa mère, Debbie Reynolds, figure tutélaire du grand Hollywood. Leurs maisons sont voisines sur la même colline de Beverly Hills. Et entre les deux femmes, rien ne semble avoir changé depuis des lustres. Disputes et embrassades, fâcheries et réconciliations, Carrie ne peut pas se passer de Debbie. Et Debbie veut toujours savoir où est Carrie.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel Carrie Fisher sur RTL.
Je sais très bien que tu ne peux pas me voir sans penser à lui.
Tu crois que je cherche à l'oublier ? Je veux qu'il revienne.
On a fait tout ce qu'on pouvait. Il a trop de Vador en lui.
C'est pour ça que je voulais qu'il se forme auprès de Luke. C'était... Je n'aurais jamais dû le laisser partir. C'est comme ça que je l'ai perdu. Que je vous ai perdus tous les deux.
Il a bien fallu qu'on affronte ça chacun à notre façon. J'ai recommencé à faire la seule chose que je savais faire à peu près bien.
Oui. Et moi aussi.
On a perdu notre fils. À tout jamais.
Non. C'est venu de Snoke. Il a entraîné notre fils du côté obscur. Mais nous pouvons encore le sauver.
À l'approche de la soixantaine, la guerre des étoiles et Leia Organa rattrapent Carrie Fisher. La jeune princesse est devenue générale dans l'armée du bien qui combat dans l'espace. Elle n'a pas hésité une minute à reprendre ce rôle qui la poursuit depuis ses 19 ans et dans lequel elle s'est volontairement laissée enfermer. Carrie Fisher suit une cure d'amaigrissement, elle qui ces dernières années a pesé jusqu'à 80 kilos. Sur le plateau, elle croise à nouveau Harrison Ford. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Personne ne parle du passé comme si le passé n'existait pas. Quand Carrie lui désigne un couple de retraités qui ont l'air amoureux, l'acteur répond « Eux, au moins, ils sont heureux ». Le 23 décembre 2016, dans l'avion qui la ramène de Londres où elle a présenté son livre de mémoire, Carrie Fisher est victime d'un malaise, puis sombre dans le coma. Une apnée du sommeil. Elle meurt 4 jours plus tard sans jamais avoir repris connaissance. Dans son corps, les médecins trouvent des traces de cocaïne, ecstasy et méthadone. Le lendemain de sa mort, comme si le destin avait décidé de poursuivre jusqu'au bout la mère et sa fille, Debbie Reynolds meurt à son tour après avoir murmuré ces mots « Je veux partir avec Carrie ». 3 ans après la disparition de Carrie Fisher, son frère Todd trouvera dans un tiroir ce mot surprenant écrit par sa sœur. « Je suis morte, nouvelle scène, nouveau décor, nouveau lieu paradisiaque. J'ai enfin décroché le rôle pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Dieu m'a donné ce rôle, la preuve parfaite que les princesses ne meurent jamais. »
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Carrie Fisher, d'autres vies sans doute que celle de la princesse Leia, même si celle-ci ne cessera de la poursuivre. Depuis une heure au téléphone de Confidentiel, François Forestier, spécialiste du cinéma à l'Obs, excellent connaisseur du cinéma américain. Dans la vie de Carrie Fisher, il y a un fil rouge, c'est la drogue et les addictions aux médicaments.
Exactement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, au début, dit-elle, en tout cas ce qu'elle révèle dans ses souvenirs, a commencé à fumer des pétards, et puis ensuite a pris des médicaments, et puis ensuite a pris des amphétamines, et puis ensuite a pris de la cocaïne, et puis a fait des mélanges de tout ça. Ceci dit, elle n'avait pas vraiment besoin de ça, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà un déséquilibre grave au début. On sentait très bien que ça la rendait malheureuse quand on la rencontrait, mais c'était une chose contre laquelle elle n'arrivait pas à lutter. Donc, je pense que tout ça trouve son origine, évidemment, dans son enfance, où elle a cherché un père absent, une mère absente, et puis ensuite, elle a été laissée littéralement à volo dans un univers qui privilégiait la célébrité. Et ma conviction personnelle, c'est que la célébrité, si on n'est pas armé pour ça, ce qui est rare, est quelque chose d'extraordinairement destructif.
une romance François Forestier courte avec Harrison Ford, un mariage raté avec Paul Simon. Est-ce que Carrie Fisher pouvait vivre vraiment une histoire d'amour avec quelqu'un ou c'était impossible?
Ça devait être en tout cas très difficile puisque c'est quelqu'un qui était sujet à des gros coups de blues et puis le lendemain elle était survoltée. Quand on parlait avec elle, comme je l'ai fait au cours d'une interview, on sentait très bien qu'elle avait des moments d'exaltation, qu'elle était très drôle d'ailleurs, c'est une femme qui avait de l'esprit, mais qu'il y avait des moments où la nuit tombait littéralement. C'est même pas la question de savoir si elle pouvait vivre avec quelqu'un, c'est tout simplement de savoir si elle pouvait vivre avec elle-même.
Alors il y a un visage moins connu de Carrie Fisher, c'est celui de la scénariste. Elle va beaucoup travailler, d'ailleurs elle aura beaucoup de succès dans ce domaine.
Oui, parce que c'est un travail qui lui convenait bien. C'est bizarre qu'elle ait découvert ça sur le tard. Au moment où sa carrière a commencé un petit peu à descendre, elle s'est mise à écrire. Elle a écrit Bon baiser d'Hollywood, qui est un livre qui a eu un énorme succès d'ailleurs, qui est la version romancée de ses rapports avec sa mère. Le film a été joué plus tard par Meryl Streep et Shirley MacLaine. Les 15 dernières années de sa vie, elle a servi de script doctor, c'est-à-dire elle rempaillait les scénarios boiteux pour les gros producteurs, et c'est ce qu'elle a fait de mieux.
Elle est morte éminemment malheureuse, Carrie Fisher.
Ni heureuse ni malheureuse, c'est beaucoup à dire, parce qu'elle venait de se faire désintoxiquer. C'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé vraiment sa voie au sens quiétude de l'esprit. Je pense qu'elle en est morte d'ailleurs, puisqu'elle est morte assez jeune. Vous savez qu'elle a fait mettre ses cendres dans un drôle de cercueil, puisque ce cercueil a la forme d'une grosse pilule de Prozac, qui était le médicament qu'on donnait à l'époque aux gens qui étaient déséquilibrés.
Merci beaucoup François Forestier de nous avoir accompagnés dans les pas de Carrie Fisher, qui restera donc à jamais la princesse Leia de Star Wars. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, François Touchard à la réalisation. Merci pour votre fidélité à Confidentiel, une heure chaque samedi pour se changer les idées, s'évader, et on en a bien besoin en ce moment pour le moins particulier. La semaine prochaine, je vous raconterai le destin trop tôt brisé de Michel Berger.